CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir si nous sommes prêts à obéir à tout prix, obéir à Dieu bien sûr.
Bah ouais, bien sûr.
Bonjour mesdames.
Bonjour Madame Lebon.
Je suis ravie de vous retrouver.
Hey. Ça fait plaisir d'être là.
Mais oui, ça fait
ensemble
plaisir.
À trois. Ensemble à trois.
Et ça fait longtemps
en comité
qu'on
restreint.
S'est pas vu. En petit comité, mais un bon comité, un bon comité.
Oui.
Moi, je vais vous poser la question que j'ai posée à tous les chroniqueurs du jour précédent. Comment s'est passé votre confinement? On veut savoir parce que vraiment, on ne s'est pas vu ou très peu.
Ah, eh ben, oui, j'ouvre le bal. Oui. Ben, écoute, j'ai jamais été autant occupée de ma vie, en fait. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des masques. Hein,
oui.
Au début du confinement, j'ai fait pas mal de
masques. J'ai vu des
masques. J'ai vu des masques.
À la chaîne.
À la chaîne. J'ai fait des semis pour les potagers de tout mon quartier, quasiment.
Wow.
Sauf qu'il fait encore trop froid dehors, donc les semis ont poussé. Et maintenant, c'est plus un salon que j'ai, c'est une serre.
Oh, wow.
Et on s'était mis des défis avec des amis que j'ai en France, mm-hmm. avec nos montres qui calculent nos pas et les étages qu'on monte. Donc, on avait chaque jour des défis physiques à faire.
Wow.
De monter d'étages d'escalier, de
oui,
pas,
parce que
nombre de pas.
Tu pouvais pas marcher beaucoup, beaucoup. Donc
Mais non, j'ai été assez contente de moi parce que j'ai fait plus de 20 étages par jour.
Bravo.
Et mon record, 42 étages dans la journée.
Waouh.
Donc en fait.
Jonathan, qui travaillait dans le sous-sol, il nous disait
j'entendais la
cavalerie.
Mais bon, je précise que c'était pas juste monter les étages pour ça, mais je montais des choses, je descendais des choses, je rangeais. Voilà.
Ça fait du tri dans ta maison.
Du tri dans ma maison qui en avait bien besoin.
C'est formidable. C'est du confinement qui fait du
confinement
différent.
Positif.
Aurélie, tu as travaillé, télétravail pour toi, et travaille un peu au bureau,
télétravail.
Parce que tu as fait des capsules aussi.
Oui, les capsules confinées pour prier, c'était une chose que j'ai aimé faire.
C'était vraiment bien.
Oui, gloire à Dieu, et puis le télétravail, et puis le temps avec le Seigneur à la maison, calme, simplement, c'était génial.
Excellent. Anne, d'ailleurs, tu as fait des capsules, toi aussi.
Oui, j'ai fait des capsules d'actu.
Toi aussi,
oui,
c'est
exact.
Vrai.
C'était déjà loin, donc j'ai déjà oublié. Mais...
Ah ben, vous avez été bien active, bravo. Ben, nous, on va commencer notre émission. Aurélie, t'es prête?
Yeah.
C'est parti, donc, avec la pensée du jour.
Le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est « L'obéissance, la clé de ta percée ». Alors, j'aimerais vous dire que les défis par lesquels vous passez, les montagnes qui sont devant vous et qui semblent tellement si grandes à vos yeux, en fait, elles ne sont rien devant la grandeur et la puissance de Dieu. C'est tellement insignifiant. Ces choses sont à la portée de Dieu et ces montagnes, vraiment, Dieu a la capacité de tout simplement les renverser en un instant. La Bible nous dit, y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour Dieu? La réponse est non, bien entendu. Mais y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour vous? Eh bien, la réponse est oui. Donc, si vous voulez vivre vos projets, vos percées, les différentes choses qui se graissent devant vous, que vous voulez... arriver à faire, si vous voulez prendre des grands pas dans la vie, eh ben il va falloir obéir à celui-là qui a toute la pleine puissance, la pleine capacité et les pleins pouvoirs entre ses mains. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est prêter attention à la voix de Dieu pour accomplir toute chose face à toute situation. En fait, il s'agit de compter sur la sagesse de Dieu face à toutes les situations que nous rencontrons. Et désobéir, par contre, c'est choisir de ne pas prêter attention à la voix de Dieu. Certaines personnes désobéissent de plein gré, donc elles entendent la voix de Dieu, mais elles refusent tout simplement d'obéir. D'autres personnes le font de façon inconsciente parce qu'elles ne prennent pas toujours le temps d'entendre la voix de Dieu. Alors, Saül, c'est un exemple qu'on va voir aujourd'hui dans la Bible. Il a désobéi et on va voir que la désobéissance peut coûter parfois très cher. Et lui, ça lui a coûté sa place de roi. On peut lire l'histoire dans 1 Samuel 13. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a offert l'Holocauste alors que c'était pas à lui de le faire. Il avait une bonne raison à ses yeux, donc c'était valable pour lui de le faire. Mais avoir une bonne raison ne justifie pas la désobéissance.
Mmh.
Et lorsque il a posé cet acte, il y a Samuel qui est revenu et il lui a dit « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. Donc, on voit ici que le règne de Saül est fini de façon prématurée. Et ça, c'est la conséquence de sa désobéissance. Et il y a un cas similaire qu'on peut voir dans la Bible, dans le psaume 73. C'est Asaph qui a rédigé ce psaume. Et il voit comment les méchants prospèrent, etc. Et puis, il se dit, « Ah, mais eux, ils prospèrent. » Il a voulu s'aigrir contre Dieu. Mais après, il a dit, « Et quoi ?» En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Mmh. Donc, c'est pareil, la désobéissance, parce que le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Mmh. La désobéissance nous fait en sorte que les personnes finissent de façon prématurée. Tout ce que vous avez construit, vous réalisez en un seul instant, ça part en fumée parce qu'on n'a pas pris le temps d'obéir à la parole de Dieu. On ne veut pas que ce soit notre partage, alors je veux vite vous donner quelques bonnes conséquences de l'obéissance. L'obéissance permet bien sûr d'affermir notre vie et nos projets. Dans 1 Samuel 13 qu'on a lu tout à l'heure, il y a Samuel qui a dit à Saül que si tu avais bien agi, mais l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Ça veut dire que quand on choisit d'obéir à Dieu, notre règne est affermi, nos projets sont affermis. L'obéissance permet également de vivre exactement ce pourquoi Dieu nous a appelés. Vous avez vu dans l'histoire de Saül encore, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Normalement, c'était à Samuel de le faire. Et quand on désobéit à Dieu, parfois on se retrouve en train de faire plusieurs choses qui ne sont pas nos tâches à nous, au lieu de nous concentrer sur le point sur lequel le Seigneur nous aurait tout simplement communiqué. L'obéissance permet d'échapper aux dangers et aux désastres. On voit l'exemple, par exemple, de Noé. Noé a été divinement averti et puis il a obéi, il a construit ce bateau et la Bible nous dit que justement lui, il a échappé avec sa famille. L'obéissance permet de remporter des victoires sur l'ennemi. On peut le voir avec David dans la Bible, j'ai plein d'exemples comme ça. L'obéissance permet de vivre le surnaturel et de bénéficier de la provision de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel nous conduit, il sait exactement en fait où est le lieu de votre provision. Il connaît la position de vos bénédictions. Donc se laisser guider par Dieu, c'est accepter de rentrer en possession de ces choses, mais de façon toute simple. Et pour finir, l'obéissance permet d'être élevé. On voit le cas de Jésus-Christ qui a été souverainement élevé parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu. Ça peut sembler peut-être quelquefois difficile parce que ça vient bousculer nos raisonnements, ça vient bousculer la façon dont on avait voulu faire, mais c'est tellement, tellement vital. L'obéissance, c'est la clé de votre percée.
Amen. Merci Aurélie. Ah, l'obéissance, c'est pas toujours facile, on s'entend. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses qui nous paraissent folles, qui nous paraissent insurmontables. On se sent pas à la hauteur, on se sent pas capable. Et il faut le faire pourtant. Et c'est là où tout le défi de l'obéissance, c'est de dire « Seigneur, je te fais suffisamment confiance pour t'obéir. » Parce qu'en réalité, obéir à Dieu, c'est faire confiance qu'il a le meilleur pour nous. Nous avons un Dieu bon, un Dieu qui est plein de miséricorde et qui a en réserve tellement de merveilles pour nous si on marche justement dans cette voie de l'obéissance. Il trace un chemin sur lequel il y a bien sûr des embûches, on le sait, la vie n'est pas toute rose, mais il y a aussi des bénédictions qu'il a préparées pour nous, des choses formidables. Pour autant qu'on décide d'emprunter ce chemin. Et c'est là la décision de décider, ok Seigneur, je vais t'obéir coûte que coûte. Abraham avec Isaac en est un exemple exceptionnel. C'était une obéissance qui a dû lui arracher le cœur. Il l'a fait, mais Dieu ne voulait pas réellement qu'il tue son fils. Parce que Dieu est bon. Et quand on sait que Dieu est bon, c'est beaucoup plus facile de lui obéir.
Bah, tout à l'heure, dans la rubrique Flashback, je vais vous donner un excellent exemple. C'est exactement comme Isaac, et je veux pas dévoiler mon histoire, mais c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que, parfois, le pas d'obéissance que Dieu nous demande, c'est juste pour nous tester. Et il faut voir que l'obéissance qu'il nous demande, le premier bénéficiaire, c'est déjà nous. Soi-même.
Oui.
Avec le temps, on peut regarder en arrière et voir les quelques fois, j'espère rares, où on a désobéi. Et on a vu où ça nous avait entraîné.
Tellement.
Et au contraire, on peut aussi voir les fois où on a obéi et où ça nous a conduit. Et on sait, et on le sait d'autant plus qu'on a du chemin derrière, que l'obéissance est toujours payante.
Amen.
Et que Dieu ne nous demande jamais des choses au-dessus de nos forces. Et que quand on obéit, non seulement soi-même on est béni, mais on bénit autour de soi et on permet aussi à l'œuvre de Dieu de se faire. Si tout le monde obéissait parfaitement, l'œuvre de Dieu se ferait d'une manière absolument époustouflante et merveilleuse.
Amen.
Et la désobéissance, ça va être un frein majeur et un obstacle en permanence sur notre chemin, sur le chemin des autres, et des retards. Je dis pas que ça empêche la volonté de Dieu de se faire, mais c'est autant de retards. Et l'ennemi se sert de nos désobéissances pour servir ses propres enjeux à lui. Donc, quand on désobéit, il faut pas se dire « Oh, de toute façon, Dieu est miséricordieux, il me pardonnera. » Parce que ça, c'est agir comme un enfant. Obéir, ben, je sais que j'en serai le premier bénéficiaire, que d'autres en seront bénéficiaires et que Dieu va se glorifier au travers de mon obéissance.
Il y a quelque chose qui arrive souvent, quand je t'entends parler, c'est à ça que je pense, c'est que il y a des personnes qui désobéissent parce qu'elles sont déjà trop loin dans le processus qu'elles ont entamé. C'est que, ben non, j'ai déjà commencé à le faire, etc.
Ça implique un demi-tour.
Et voilà, ça implique revenir vraiment en arrière pour faire la volonté de Dieu. Et là, on choisit juste de terminer ce qu'on a fait parce qu'on est dans notre zone de confort, dans la façon dont on a travaillé. Mais ça aussi, vraiment, c'est de dire non. C'est aussi ce sacrifice-là de dire, OK, j'avais commencé, je m'étais engagée sur ce chemin, mais je choisis parce que je sais que Dieu veut le meilleur pour moi, mais je choisis de renoncer, en fait, tout simplement pour suivre sa volonté à lui aussi.
Exactement.
Puis il n'est jamais trop tard. Quand on se rend compte qu'on a désobéi et que même si notre désobéissance commence à porter des fruits amers, il est toujours temps de se repentir. Et le Seigneur est très créatif pour nous ramener sur le bon chemin.
Tellement.
Alors peut-être qu'il y aura des conséquences, effectivement, qu'on devra endurer pendant de longues années, mais en tout cas, Dieu est assez créatif et bon et miséricordieux pour nous faire retrouver la bonne route sans qu'il y ait trop de casse.
Amen, amen. Et j'ai un verset qui va encourager à l'obéissance, et une obéissance qui coûte parfois. Matthieu 19, 29, c'est notre verset du jour. « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Il y a une autre version aussi qui dit « recevra ce centuple » ou c'est peut-être dans la suite du verset, je ne sais plus, « dans ce siècle présent ou dans la vie éternelle. » Et c'est une promesse extraordinaire de se dire que l'obéissance peut tout nous coûter. Parce que certaines personnes, l'obéissance leur a réellement tout coûté. Ils ont dû, ils ont tout perdu pour suivre le Seigneur. Mais quelle récompense extraordinaire nous attend. Que ce soit dans le siècle présent ou que ce soit au ciel dans l'éternité. Honnêtement, je préfère encore dans l'éternité, très sincèrement. Les deux, c'est le mieux. Mais on sait que Dieu est suffisamment bon pour récompenser notre obéissance aussi. Et juste ça, c'est un argument suffisant pour lui obéir.
Ça prend la foi de se dire que, ah, mais Seigneur, même si je vois pas ces choses sur la terre, etc., je vais le voir. Et encore même avec Dieu, vraiment, Dieu nous surprend tellement par sa bonté, en fait, lorsqu'on choisit d'obéir à Dieu. Et il va falloir, pour les personnes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, manifester la foi. Parce que le pas d'obéissance est souvent difficile. C'est comme, ah, Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est impossible pour moi. Mais quand Dieu, il nous demande quelque chose, vraiment, il nous donne la capacité d'accomplir cette chose-là.
Amen.
Donc, les choses qu'on peut penser être trop dures pour nous, dès qu'on va commencer à marcher, mais il y a une grâce qui vient avec ça. Et cette grâce fait en sorte qu'on peut s'ouvrir, mais il faut qu'on ait la foi pour reconnaître que vraiment, la grandeur de Dieu va me porter dans cette situation. Si Dieu m'a dit de le faire, il a déjà prévu tout ce qu'il faut pour que ça se fasse bien. Et même si les difficultés arrivent, même si c'est très difficile, etc., il y a une grâce qui est disponible aussi pour passer ce temps-là. Donc vraiment, ne nous décourageons pas de marcher dans l'obéissance. La volonté de Dieu est parfaite pour nos vies. Dès que Dieu parle, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment la volonté parfaite de Dieu pour nos vies.
Amen, amen. Et quoi de mieux que d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies? Anne, tu nous le disais tout à l'heure, dans ta rubrique, on va voir un bel exemple d'obéissance. Tu nous vas nous parler.
Plusieurs même, exemples de grande obéissance, dont un particulièrement.
Ah, moi, j'ai trop hâte de cette rubrique, ça fait longtemps que tu m'en parles. Je trépigne. Allez, on enchaîne avec la rubrique flashback. Mmh. Anne, je le disais hier, en conclusion d'émission, tu n'étais pas là, donc tu ne le sais pas, mais je disais aux gens que tu allais nous parler des Moraves.
Oui.
Et que ceux qui ne savent pas qui sont les Moraves, qu'ils écoutent cette rubrique. Et moi, j'en fais partie. Tu m'as dit des petites choses.
Ouais, ouais.
Mais j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus sur ces fameux Moraves dont j'avais, avant de t'en entendre parler, jamais entendu parler.
Ben, j'avais un petit peu parlé des Moraves quand j'ai parlé de la vie de John et Charles Wesley.
Oui, voilà.
Parce que quand ils ont traversé pour aller en Géorgie et qu'ils étaient en pleine tempête sur ce bateau, qui est-ce qui a rendu témoignage par le comportement exemplaire? Bah, c'était les Moraves. Et c'est parce que les Moraves ont eu un comportement exemplaire, qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils ont gardé une foi vraiment paisible pendant cette tragédie, que les frères Wesley se sont intéressés à ce qu'ils avaient de plus qu'eux et qu'ils se sont approchés de Dieu d'une manière qui a donné tout ce fruit énorme qu'ont donné les frères Wesley.
Ouais, c'est clair.
Le réveil méthodiste. Et aujourd'hui, je vous raconte un réveil, et ce réveil chez ces fameux Moraves. Parce que s'ils ont été aussi exemplaires, c'est qu'ils ont vécu un réveil et que Dieu a bouleversé leur vie. Et d'abord, avant de commencer, je veux définir un réveil, parce que c'est un peu un mot fourre-tout. C'est un tiroir dans lequel il y a toutes sortes de vie de poche. Moi, je dirais, au vu de tous les réveils qu'on a pu raconter sur ce plateau, que c'est le moment où des gens, croyants ou non, dans un même lieu, sont saisis par la conviction de leur propre péché, ils se repentent devant Dieu, et qui, juste après, sont saisis du fardeau du salut des perdus. Parce que il peut y avoir toutes sortes de manifestations, des prophéties, des miracles, des prodiges, des moments d'émotion fortes, ou pas. Mais le cœur d'un réveil, c'est vraiment cet appel à la repentance. C'est fondé, un réveil, c'est pas fondé sur l'expérience, c'est fondé sur le salut. C'est le salut des gens qui sont là et le salut, ensuite le fardeau du salut des perdus. Et c'est exactement ce qu'ont vécu ces Moraves. Ce que je vous raconte, ça se passe au début des années 1700. Et je vous emmène en Allemagne. Le 13 août 1727, il y a deux personnes qui sont originaires du village de Herrnhut sont en déplacement ce jour-là. Et en plein milieu de l'après-midi, ils ont un sentiment de bénédiction profonde et intense jamais vécu auparavant. Et effectivement, en ce moment même, dans leur village, leurs familles, leurs amis, leurs frères et sœurs dans la foi sont en train de vivre un des moments les plus spectaculaires de l'histoire de l'Église. Et en tout cas, un des moments les plus fructueux pour l'avenir de l'Église de Christ. Herrnhut, c'est pas un village comme les autres. Herrnhut, c'est un village construit de toutes pièces pour être un refuge pour les chrétiens persécutés. Les protestants persécutés. Oui. Donc, au début du XVIIIe siècle, les idées de la réforme, ça fait déjà 200 ans qu'elles courent. Elles ont fait beaucoup d'adeptes. Et puis, dans toute l'Europe, il y a une persécution. En presque toute l'Europe, les chrétiens protestants qui ont adopté les idées de la réforme sont persécutés. Vous savez, en France, il y a les Huguenots, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui ont été envoyés aux galères, qui sont encore en prison en 1727. À cause de leur foi. Et puis en Europe centrale, il y a aussi des protestants de diverses dénominations qui ont été violemment persécutés et poursuivis, dispersés à cause de leur foi. Et surtout la communauté morave. Et ces moraves, c'est des gens qui descendent spirituellement, en tout cas de l'enseignement de Jan Hus, on va voir son image d'ailleurs, qui a été un des premiers réformateurs et qui a amené dans ce peuple morave qui a connu à l'époque vraiment une vague de conversion au protestantisme. Donc Jan Hus avait apporté à ces Moraves la foi, et ces gens donc qui se retrouvent dans le village de Herrnhut sont majoritairement des descendants spirituels au moins de ces Moraves. Moravie, c'est une région de Bohême, les Moraves sont originaires de là, et c'est en ce moment dans le territoire actuel de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque maintenant.
Et on allait rectifier.
Donc à cette même époque, on a un charmant jeune homme très talentueux qui s'appelle Nikolaus Ludwig Comte Zinzendorf. C'est dur à dire, épargne-moi. Nikolaus Ludwig Comte Zinzendorf, il est dans la jeune vingtaine à l'époque et c'est le fils unique d'une famille noble, extrêmement riche, de la haute noblesse allemande. Et sa grand-mère Henriette était une femme de foi. Et dès l'enfance, Nikolaus a connu des rassemblements de prières, des études bibliques chez sa grand-mère dans le château. Et à 4 ans, il avait déjà fait une alliance enfantine avec son sauveur Jésus. Wow. Adolescent, il était très zélé. Il avait mis en place tout un réseau de groupes de prières là où il étudiait. Et servir Christ, c'était sa vie. Et à 19 ans, comme tous les garçons de bonne famille, de la grande noblesse et de la bourgeoisie européenne, il est envoyé découvrir les grandes capitales européennes. Et pendant ses voyages, il découvre, à sa grande surprise, que les protestants sont violemment persécutés dans certains coins d'Europe. Alors il rentre dans son pays à 20 ans avec une seule idée en tête, tout faire pour les protéger. Alors en 1720, il prend l'argent de l'héritage de sa grand-mère et il va acheter une ville entière qui s'appelle Bertelsdorf.
Wow.
Et à la périphérie de Bertelsdorf, il va construire un village de toutes pièces qui va s'appeler Herrnhut, qui en allemand veut dire le refuge du Seigneur.
Wow.
Et ce village va commencer à accueillir dès 1720 des familles, majoritairement des Moraves, des jeunes familles moraves qui fuient les persécutions. Mais aussi d'autres dénominations, parce que Nicolas Ludwig invite aussi des calvinistes, des luthériens, des disciples de Zwingli, des anabaptistes, qui eux aussi sont poursuivis pour leur foi. Donc on a un melting pot, là, on a toute une, un village de gens, tous protestants, tous des lecteurs assidus de la parole de Dieu, mais quand même qui ont quelques différences doctrinales.
Oui, c'est sûr. Quand je te disais, ça peut être explosif. Hein.
Et là, on est à peu près à 300 personnes, donc en 1727, le jour de cette année de réveil. Et quelques années de cohabitation ont amené des disputes. On commence à se chamailler sur les enseignements, sur la prédestination. Alors là, ça fait couler beaucoup de salive. Aussi la manière d'administrer le baptême. On se dispute à qui mieux. Et l'ambiance est vraiment pourri dans le village, franchement. Et le comte Zinzendorf commence à voir l'œuvre de son cœur et l'œuvre que Dieu l'a amené à construire en train de partir en miettes. Et il se dit, si on fait rien, dans quelques années, il n'y aura plus rien. Tout le monde aura été dispersé à cause de ces disputes. Alors, il démissionne de ses fonctions au gouvernement à Dresde pour s'occuper à 100% à plein temps en tant que berger de son peuple, de son troupeau, de Herrnhut.
C'est courageux, hein.
Il revient et au printemps 1727, accompagné de trois anciens de la communauté, il va dans chaque maison faire signer une alliance d'amour fraternel où les habitants doivent s'engager à cesser d'argumenter sur ce qui les divise et à cultiver ce qu'ils ont en commun avec les autres. Et chacun doit s'engager à ne plus critiquer, ne pas juger, à s'aimer fraternellement.
Un bon contraste.
Comme la Bible nous le commande. Alors la règle est simple, c'est soit tu signes, soit tu déménages.
Waouh.
Le 12 mai 1727, tout le monde était, plus ou moins, à part quelques exceptions très rares, tout le monde était entré dans cette alliance. Et en début d'été, le village commence à connaître vraiment une communion avec Dieu, une paix, une joie que jamais personne n'avait connue auparavant. Le 10 août, le pasteur qui célébrait le culte ce jour-là invite les gens à se préparer à 3 jours de jeûne et de prière pour s'examiner devant Dieu, pour que le 13 août, tout le monde soit prêt dans un temps de communion spécifique. Et tous prennent très sérieusement cet appel et pendant 3 jours, chacun, pour sa part, cherche la face de Dieu. Le 12 août, on fait une réunion de prière de préparation et pendant cette réunion de prière, plusieurs même se convertissent et acceptent Christ comme leur sauveur. Qu'ils se rendent compte que ils enseignent, ils croient, ils lisent leur Bible, mais en fait, ils n'ont pas rencontré Jésus.
Ah, ça, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. Et le 13 août, c'est ce fameux moment crucial de la vie de ce village morave.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils arrivent tous un peu déçus d'eux-mêmes en disant que ils valent pas mieux que les autres et que Dieu a vraiment, le Saint-Esprit a mis en lumière des choses. Et pendant cette réunion, le Saint-Esprit descend. Il y a beaucoup de gens qui se repentent et le Saint-Esprit descend sur cette communauté. Et le comte Zinzendorf écrira plus tard, ils quittèrent la maison de Dieu ce midi-là, ne sachant plus vraiment s'ils étaient toujours sur terre ou s'ils étaient arrivés au ciel. 2 semaines plus tard, il est décidé que 24 heures sur 24, une chaîne de prière sera établie. Donc 24 hommes, 24 femmes, rejoints plus tard par 70 autres et encore plus par la suite, vont faire pendant les 100 prochaines années, donc eux et leurs descendants, cette chaîne de prière ne cessera jamais. Et chaque heure, des gens sérieusement prieront pour le salut des perdus et pour les besoins dont ils ont connaissance. Et on l'a appelée la prière de 100 ans. Mais en fait, elle a duré plus que 100 ans. Certains historiens disent même qu'elle aurait duré 125 ans et peut-être même plus. Parce que on sait pas trop à quel moment précis ça a terminé, mais ça a duré plus de 100 ans, 24 heures sur 24. Et pendant ces temps de prière, Dieu les a appelés à la mission. Et quand je parle d'obéissance, je vais terminer sur ce point d'obéissance phénoménal. C'est que ils ont eu connaissance, enfin le comte Zinzendorf, dans un de ses voyages au Danemark, a eu connaissance de la condition des esclaves africains aux Antilles, principalement aux Antilles danoises. Et quand il rentre en Allemagne, son cœur est vraiment étreint par ce désir d'aller porter la bonne nouvelle à ces malheureux. Et il parle de ce sujet, il partage ce témoignage de ce Anthony, cet esclave échappé. Il parle à la communauté, et dans la communauté, deux garçons se lèvent en disant « on va y aller ». On va aller prêcher la bonne nouvelle à ces malheureux. Et là, on leur dit, bah oui, mais de toute façon, les propriétaires des plantations vous laisseront pas approcher. Alors, ils prennent quelques jours pour prier, réfléchir, jeûner, et ils reviennent en disant, on va se livrer en esclavage nous-mêmes, on va se vendre en esclavage pour avoir accès à ces gens. Alors, il y en a un des deux qui est trop jeune pour partir, donc on décide qu'un va partir accompagné d'un plus âgé. Et ils partent tous les deux, ils prennent le bateau au Danemark. Donc l'année 1732, ils arrivent en décembre 1732 à Saint-Thomas dans les Antilles, l'île de Saint-Thomas. Mmh. Et à leur grande surprise, et c'est là que je dis ça ressemble à ce qu'a fait Abraham avec son fils, c'est comment quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de se livrer en esclavage parce qu'ils ont accès aux esclaves.
Oh, alléluia.
Et ils arrivent à se faire embaucher.
Ça ressemble vraiment à Isaac.
Ils arrivent à se faire embaucher sur des plantations. Et ils ont accès direct aux esclaves. Donc évidemment, ça va pas se passer très facilement. Peut-être une autre fois, j'aurai du temps pour détailler tout ce qu'ils ont fait. Mais ça a été un peuple missionnaire. Ça a été le début d'un élan missionnaire. 50 ans avant William Carey, qu'on considère comme le premier missionnaire, 50 ans avant, les Moraves sont partis dans le monde entier, en commençant par les Antilles danoises, le Groenland, l'Afrique du Sud, l'Australie, partout dans le monde. Il y a des équipes, des fois plusieurs familles, qui sont parties évangéliser pour amener vraiment la parole de salut aux perdus. C'est des gens qui ont été exemplaires, ils étaient sanctifiés, c'était vraiment des modèles de foi. C'est eux qui ont amené les frères Wesley à la foi et bien d'autres encore. Oh, alors on leur tire notre chapeau, c'est nos prédécesseurs dans la foi, c'est un modèle de foi, d'endurance et d'obéissance. Et je pense qu'ils sont trop tombés dans l'oubli, il faut vraiment les remettre au goût du jour.
Ah, oui,
ce sont nos modèles, ce sont nos prédécesseurs et le modèle qu'ils ont laissé, c'est une grâce pour nous aujourd'hui de la connaître.
Wow, merci Anne. Je pense qu'on a fait wa quatre fois. Désolée pour les téléspectateurs qui en ont eu marre de nous entendre dire wa, mais waouh, c'est magnifique. Vraiment, merci Anne de nous ressortir des pépites comme ça qui sont.
Oh, puis il y a des anecdotes géniales. À un moment donné, il y a deux prédicateurs moraves qui ont été mis en prison. Alors il y avait 900 personnes, donc parmi ces esclaves africains, qui s'étaient donc qui pour les encourager s'approchaient le plus près possible de la prison et chantaient des cantiques pour les encourager. Et eux, les deux prisonniers prêchaient par la petite fenêtre de la cellule, la fenêtre grillagée. Et donc les autres écoutaient. Et il y a eu un réveil parmi les esclaves africains après cette période d'emprisonnement. Et le comte d'Hinzendorf est arrivé avec d'autres couples, il les a sauvés, il a payé pour qu'ils sortent de prison.
Il faut que toutes sortes d'aventures.
Une suite, Anne.
C'est passionnant.
Je vote pour une suite qui vote avec moi.
On voit la grâce de Dieu, on voit comment Dieu ouvre les portes et c'est une histoire absolument phénoménale et encourageante pour notre vie de foi.
Gloire à Dieu pour de tels hommes et qu'ils puissent nous inspirer. Merci beaucoup Anne, qui nous inspire à l'obéissance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le thème d'aujourd'hui vous a vraiment interpellé parce que vous savez exactement à quoi vous devez obéir et ça a tiré un petit peu dans votre cœur. Soumettez-vous à la voix de Dieu et on ne sait pas si justement, tout comme les Moraves ou tout comme Abraham avec Isaac, eh bien finalement ça vous coûtera bien moins cher que ce que vous pensez. On peut avoir l'impression que d'obéir à Dieu va nous coûter tout ce qu'on a, mais finalement ça peut être vraiment une porte d'entrée pour une grande bénédiction dans nos vies et dans la vie des autres. Et juste pour ça, ça vaut vraiment la peine d'obéir à Dieu. On va se retrouver demain. Notre thème sera la révélation de la parole de Dieu dans l'adversité. Vous passez peut-être par des moments difficiles. La parole de Dieu est un secours pour vous. Nous en parlerons demain et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question, culture et médias avec Nadine et une invitée qui va être là, Anne Kernizan, qui va nous partager sa petite collection. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez ça demain dans l'émission Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.